Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée. Qui, du gouvernement ou de la commission électorale, vous semble le plus crédible pour organiser le référendum constitutionnel et les élections censées marquer la fin de la transition? En tout cas, les autorités ont décidé de confier cette mission au ministère de l'administration du territoire. Une décision qui fait polémique, une décision qui est contestée par plusieurs partis politiques qui estiment qu'une commission électorale serait plus impartial. On en débat donc ce matin sur RFI. Vous nous appelez, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions sur la guerre au Soudan. Il y a tout juste deux ans, le 15 avril 2023, les premiers combats éclataient à Khartoum, la capitale. Très vite, les affrontements vont s'étendre à l'ensemble du pays. Deux ans que ce pays, le Soudan, est dévasté par ce conflit qui oppose deux hommes. D'un côté, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, le chef des paramilitaires FSR. Jérôme Tubiana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller aux opérations de l'ONG Médecins Sans Frontières, spécialiste du Soudan. Jérôme Tubiana, plusieurs auditeurs nous interpellent sur les réseaux sociaux, sur la situation humanitaire. L'ONU affirme que le Soudan est actuellement le seul pays au monde où plusieurs localités sont officiellement frappées par la famine. La situation humanitaire s'enlise de jour en jour. Cette situation, elle concerne l'ensemble du territoire soudanais, où malgré tout, quelques régions sont tout de même épargnées.
Il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres, et c'est certainement le cas pour la famine, ou en particulier des régions de l'ouest du Kordofan et des localités du Darfour sont particulièrement touchées. C'est aussi lié au fait qu'on a très peu de données, on manque de données. Donc nous, à MSF, on est présent depuis avant le conflit à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, et dans le camp de déplacés, l'énorme camp de déplacés, environ un demi-million de personnes de Zamzam, proche d'El Fasher. Et donc on a fait des études nutritionnelles sur Zamzam notamment, qui ont de fait permis ces déclarations de famine, d'abord sur Zamzam, par le comité international qui est légitime pour déclarer une famine. Et puis ensuite, cette déclaration s'est étendue à deux autres camps de déplacés encore plus proches d'El Fasher. Donc on peut considérer que El Fasher et Zamzam sont en état de famine. C'était le cas avant que les forces de soutien rapide ne mettent le siège à cette localité. Évidemment, ça c'est, même si on a moins de données, ça n'a pu que s'aggraver depuis parce que la ville est assiégée. Et que, tout simplement, les denrées alimentaires n'y parviennent plus, ou seulement au prix de paiement de taxes absolument incroyables qui font que les prix des denrées alimentaires de base sont extrêmement élevés dans cet endroit.
On parle de 13 millions de personnes déplacées. C'est un chiffre qui est sous-estimé ou qui correspond, selon vous, à la réalité?
C'est probablement un des rares chiffres exacts sur un conflit comme celui que vit le Soudan. On va dire 9 millions de déplacés internes, et dans ces 13 millions, il y a aussi les 3 millions et quelques de réfugiés dans les pays voisins, notamment au Tchad, où on est aussi présent, beaucoup en Égypte. Mais bref, oui, ce chiffre est exact, et c'est certainement la plus grave crise de déplacement au monde. Après, il ne faut pas oublier aussi, et je pense qu'on a mis un peu l'accent dessus, y compris les Nations Unies, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, les gens qui sont bloqués, dans des zones dont ils ne peuvent pas bouger. Ça, c'est le cas dans certains endroits au centre du Soudan, ça a été le cas, à Khartoum notamment. C'est aussi le cas de nouveau à El Fasher, au Zamzam, où en fait il est très difficile de se déplacer, parce que notamment il faut aussi payer. Il faut payer pour amener des denrées alimentaires, de l'aide humanitaire, il faut payer des taxes au checkpoint, mais il faut aussi en payer pour sortir. Donc malheureusement, les plus pauvres sont souvent bloqués sur place.
Alors, on a des questions justement sur la situation humanitaire. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous êtes en Guinée, à Doubreka exactement, on vous écoute.
Merci Juan. Je conflit, je mets depuis...
Alors attendez, excusez-moi Ibrahima, déplacez-vous, mettez-vous à l'extérieur pour qu'on puisse bien vous entendre, je suis désolé, mais malheureusement la liaison téléphonique est trop mauvaise.
Je disais tantôt, ces conflits génèrent depuis 2 ans des conséquences humanitaires majeures.
Oui.
Dans ces cas, Rouen, comment l'aide humanitaire s'organise pour venir en aide aux millions de déplacés?
Alors, bon, comment... Excusez-moi, Ibrahim, on a mal compris la question, je suis désolé. Comment l'aide humanitaire s'organise pour venir en aide aux déplacés? Jérôme Tubiana, MSF, comment faites-vous au quotidien?
Elle s'organise tant bien que mal. Ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'ouvrir on était déjà présents avant le conflit, avec des hôpitaux. Et parfois, on les a transformés... pour pouvoir faire de la chirurgie, notamment pour les blessés de guerre, et aussi pour faire de la nutrition, au vu des situations nutritionnelles, y compris de famine que vous décriviez. Donc, on est présent aujourd'hui dans 18 États sur 30. Mmh. Et ce sont les États les plus touchés. Par contre, notre présence reste limitée, fragile, et il y a beaucoup de facilités médicales, d'hôpitaux, de centres de santé, les nôtres et d'autres, qui ont été obligés de fermer, tout simplement parce qu'ils ont été victimes de bombardements, d'attaques, d'intrusions.
80 attaques ont clairement ciblé Médecins Sans Frontières depuis
tout
le début
à fait.
De la guerre.
Et c'est certainement, alors il y a des incidents d'intensité variable, mais c'est certainement, je crois que c'est l'endroit au monde où on a le plus d'incidents, juste devant Gaza. Et voilà, une grande partie de ces attaques sont liées aux forces de soutien rapide ou à leur manque de contrôle. Mais on a aussi des obstacles, en particulier plutôt d'ordre administratif, de la part de l'armée régulière. Bon, par exemple, moi, ça fait un mois et demi que j'attends un visa tout simplement pour pouvoir aller travailler sur place. Du côté des forces de soutien rapide, les obstacles peuvent être administratifs, puisqu'ils exercent aussi un contrôle sur des zones très importantes, mais ils peuvent être aussi parfois physiques.
Est-ce qu'il faudrait créer des corridors humanitaires? Est-ce que c'est possible?
Tout dépend de ce qu'on appelle exactement corridor humanitaire, mais oui, il faudrait certainement envisager des formes de protection de l'aide humanitaire, y compris sur des routes qui soient protégées ou l'accès soit garanti. De toute façon, ça implique pas seulement, ça peut impliquer l'usage de la force dans certains cas, mais en l'occurrence, là, on a d'abord besoin que les parties se mettent d'accord pour sanctuariser l'aide humanitaire. Et c'est ce qu'on demande. Elles ont d'ailleurs déjà signé des accords en la matière dès le début du conflit. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas respectés.
On va repasser au standard. Mamadi souhaite également vous poser des questions, Jérôme Tubiana. Bonjour Mamadi.
Bonjour Juan, bonjour la RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Bien, Juan, qu'est-ce qui est à l'origine de cette guerre fratricide entre ces deux généraux, pourtant camarades et frères d'armes?
Ah, bonne question, on va revenir aux origines, Jérôme Tubiana. Peut-être pour bien comprendre, il faut remonter à 2019, lorsque la rue soudanaise manifeste dans la rue contre la cherté de la vie et très vite contre le régime d'Omar al-Béchir.
Alors d'abord, c'est vrai qu'ils ont été, d'une certaine façon, frères d'armes. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre al-Burhan, qui est un général qui incarne une institution militaire, qui est de facto une institution gérée collectivement, et Emeti, qui est un chef de guerre, hein, qui s'est imposé au Darfour comme, on va dire, l'allié préféré de l'ancien président Béchir, mais qui est beaucoup plus, isolé, dont les forces n'ont pas la même institutionnalisation. Donc on a quand même deux forces fondamentalement différentes.
Oui, mais
ils se sont mis d'accord, c'est
oui,
vrai.
Oui, lorsque Béchir tombe, les deux hommes vont travailler ensemble.
Tout à fait. Ils travaillaient déjà ensemble, notamment au Yémen, où les deux forces sont intervenues ensemble, en soutien en particulier aux Émirats Arabes Unis dans la guerre qui menait au Yémen. Mais je dirais qu'ils ont été réellement d'accord à quelques moments clés. Le premier a été pour faire tomber Béchir et se partager ensuite le pouvoir. Le deuxième a été 2 ans après pour mettre fin à la transition civilo-militaire où ils avaient un rôle aux côtés de gouvernants civils, donc pour faire un coup. Et à la suite de ce coup, ils se sont retrouvés débarrassés des civils, certes, mais finalement en compétition entre eux pour le contrôle de l'essentiel du pouvoir. Et avec à la tête d'institutions fondamentalement différentes, l'une paramilitaire, l'autre armée régulière,
l'armée
plus institutionnelle,
régulière, ouais.
Et aussi fondamentalement différente en termes de communauté derrière eux. C'est-à-dire que Emeti, lui, sa base, c'est essentiellement les communautés arabes du Darfour, alors que al-Burhan représente quand même les communautés du centre du Soudan, celles qui sont au pouvoir depuis toujours au Soudan.
On va y revenir évidemment à travers les questions des auditeurs. Jérôme Tubiana est avec nous ce matin, conseiller aux opérations de l'ONG Médecins Sans Frontières, spécialiste du Soudan. Adam nous rejoint, bonjour.
Bonjour, M. Van Gomet, et bonjour à vos correspondants à travers le monde.
Merci de vos encouragements. Vous êtes au Tchad, à N'Djamena. Vous avez des questions, on vous écoute.
J'ai des questions concernant la guerre au Soudan. Mmh. Y a-t-il des voix favorables au SR au sein de la population soudanaise?
Alors, est-ce que la population ou une partie de la population soutient les paramilitaires, Jérôme Tubiana?
Oui, certainement, en particulier parmi ces communautés arabes du Darfour, parce que elles se sentent aussi menacées par cette guerre et par si les militaires viennent à l'emporter de possibles vengeances contre leur communauté. Je ne suis pas sûr que ça aura lieu, mais cette théorie est très prégnante et participe à la mobilisation de ces communautés. Après, le fait est que depuis le début du conflit, les forces de soutien rapide ont perdu du soutien, notamment parce qu'ils se sont recentrés sur une base tribale. Mmh. Et en retour, ont commis des exactions contre d'autres communautés. Sinon, au sein de l'arène politique ou de la société civile de Khartoum, les forces de soutien rapide avaient aussi du soutien au début, qui n'était pas nécessairement tribal, qui est lié au fait que, avant le conflit, Hemeti, comme il en a eu souvent l'habitude, a un petit peu lâché l'armée et a rétro-pédalé, si on peut dire, pour finalement s'excuser un peu du coup qu'il avait fait avec l'armée contre les civils et en gros se présenter comme de nouveau un soutien du gouvernement civil. Ce qui évidemment a fortement attisé les tensions entre lui et l'armée et a clairement provoquer le conflit et l'affrontement entre eux.
Adam, vous avez une autre question concernant justement les FSR, les paramilitaires.
Pourquoi les FSR s'en prennent-ils aux déplacés du camp Zamzam?
Alors, vous parliez de ce camp tout à l'heure, hein, Jérôme Toubiana, Zamzam, le plus important camp de réfugiés de la région du Darfour, qui abritait jusqu'à il y a encore quelques jours au moins 500 000 personnes. Ce camp a été attaqué, bombardé, puis attaqué par les paramilitaires avec une intervention au sol. Alors qu'il est, sait-on si ce camp est vraiment contrôlé par les FSR comme ils l'affirment depuis dimanche, ou l'armée régulière a repris le dessus?
En fait, les dernières informations que j'ai sont que les FSR se sont retirés du camp. Mmh. Il n'y a d'ailleurs aucun intérêt à le contrôler. Il est vidé de sa population aujourd'hui et largement...
400 000 personnes seraient parties de ce camp.
Ou 500 000 et peut-être même plus. Et il a été largement pillé et brûlé par les forces de soutien rapide.
Et alors justement, pour répondre à Adam, quel est l'intérêt pour les FSR de brûler, de piller, de s'attaquer aux déplacés de Zamzam?
Politiquement, aucun. Bon, il y a toujours un intérêt dans le pillage, mais je pense que il faut comprendre que le camp de Zamzam est, on peut dire, l'annexe de la ville d'El Fasher, et que les défenseurs de la ville d'El Fasher, qui sont pas seulement l'armée, mais surtout des civils d'El Fasher et de Zamzam, qui se sont mobilisés pour défendre leur ville contre les FSR, et qui l'ont clairement explicité, qu'ils souhaitaient pas que cette ville tombe aux mains des forces rapides. Ils ont parlé depuis des mois, depuis le début du conflit, aux forces de soutien rapide en leur disant « ça, vous n'y toucherez pas ». Et du coup, pour les FSR, c'est d'abord un enjeu symbolique. El Fasher est la capitale historique du Darfour. Sultanat du Darfour. Mmh. Et c'est aussi la seule grande ville du Darfour qu'ils ne contrôlent pas encore. Et donc la résistance a été très forte. Les FSR ont échoué depuis un an qu'ils ont assiégé cette ville à la prendre, malgré des attaques quasi quotidiennes. Et donc ils se sont reportés depuis quelques semaines, en fait, ils ont fait du camp de Zamzam une cible. Il y a aussi le fait qu'ils aient été défaits au centre du Soudan, à Khartoum en particulier, y compris par des défenseurs originaires d'El Fasher, peut expliquer qu'il y a eu une dynamique de vengeance Zamzam.
D'accord. Donc, en tout cas, on voit
avec
bien
des forces des FSR qui se sont repliées depuis le centre du Soudan vers le Darfour.
Ouais, depuis qu'ils ont perdu le contrôle de Khartoum, il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, les paramilitaires se redéploient ou redoublent d'efforts dans la région du Darfour et commettent davantage d'exactions dans cette région. Je voudrais qu'on passe au standard, Jérôme Tubiana, le temps passe très très vite. Pascal est au Cameroun, il a des questions à nous poser. Bonjour Pascal.
Oui, RFI, bonjour aux autorités.
On vous écoute.
Aux autorités de RFI.
On vous écoute, Pascal.
Ouais, j'ai quelques questions concernant la guerre au Soudan.
Oui.
Alors, la première de savoir pourquoi le Soudan accuse les Émirats arabes unis de complicité, de génocide à l'encontre de la communauté Massali.
Alors, Jérôme Tubiana, Khartoum, on va essayer d'être clair, Khartoum accuse effectivement les Émirats Arabes Unis d'abord d'apporter un soutien militaire, financier aux paramilitaires. C'est ça?
Oui. Et sur lequel je ne peux pas vraiment répondre, mais il est clair que politiquement, par rapport à d'autres États du Golfe et dans le cadre d'une compétition entre États du Golfe, les Émiratis sont clairement plus proches des forces de rapides que de l'armée.
Et selon Khartoum, les Émirats sont donc, puisqu'ils arment les FSR, les Émirats sont donc complices de génocide contre l'ethnie massalite.
En fait, il s'agit d'une accusation qui a été essentiellement portée par Khartoum à la Cour de justice internationale. Et clairement, il y a eu une tentative de Khartoum de répliquer ce que a fait l'Afrique du Sud contre Israël. Et là-dessus, il y a un des représentants de l'arène politique et de la société civile soudanaise, qui s'appelle Amjad Farid, qui a écrit un article très intéressant dans Foreign Policy, où il dit que la question mérite d'être posée, la question de la complicité mérite d'être posée, mais que par ailleurs, il regrette que l'accusation vienne du gouvernement soudanais, qui est une partie au conflit, et il s'étonne qu'il n'y ait pas eu, comme l'Afrique du Sud dans le cas d'Israël, un État, notamment africain, pour, par exemple, poser cette question et porter cette accusation ou cette plainte.
Et pourquoi ça n'a pas été fait, selon vous ?
Eh bien, ça, je n'en sais rien, mais je pense que ce que veut dire Amjad et ce que beaucoup de Soudanais pensent aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande indifférence, et aussi au niveau des États africains, très peu de solidarité, et même au niveau des communautés afro-américaines aux États-Unis et ailleurs, et que c'est étonnant parce que jusque-là, il y avait quand même une forte solidarité, notamment sur les violences au Soudan.
En tout cas, le ciblage ethnique au Soudan, il est documenté.
Il est documenté.
Notamment par l'ONU.
Notamment par l'ONU, et ce sont les États-Unis surtout qui ont, la précédente administration, pas celle de Trump, l'administration Biden, a conclu un génocide contre les Massalites à El Geneina. D'autres ONG ont été plus prudentes, et on parlait plutôt de crimes contre l'humanité, mais on sait que les crimes contre l'humanité ne sont pas moins graves qu'un génocide. Nous, à Médecins Sans Frontières, on a fait une étude de mortalité sur les réfugiés qui sont arrivés à Adré, au Tchad, et on a effectivement constaté des données chiffrées qui corroborent des témoignages des victimes, en particulier une augmentation de la mortalité pendant la période clé de la mi-2023, une multiplication par 20 de la mortalité qui cible en particulier les hommes. 80% des victimes sont des hommes. Donc tout ça, effectivement, corrobore les témoignages, en tout cas.
Ouais, 2023, c'est le moment où les FSR contrôlaient justement la région où auraient donc été commis ces crimes de génocide. Une dernière question, il nous reste une petite minute 30. Marius, bonjour.
Oui, bonjour, M. Wang. Mais très rapidement, la force de l'armée régulière reprend plusieurs positions au poste paramilitaire, notamment dans la capitale Khartoum. M. Wang, comment expliquer les changements dans le rapport de force sur le terrain?
Ouais, c'est vrai qu'à Khartoum, le général Al-Bourhan a réussi à renverser la situation dans la capitale.
Oui.
Al-Bourhan avait dû s'enfuir il y a un an et demi. Il a quand même mis 18 mois, effectivement, pour reprendre le contrôle de la capitale.
J'ai pas vraiment d'explication sur comment c'est possible et pourquoi, après avoir été tellement en position, on va dire, de faiblesse ou en position défensive, l'armée reprend aujourd'hui le dessus. Je pense peut-être que l'armée était moins préparée au conflit et peut-être que les forces de secours rapides s'y étaient mieux préparées. Mais ce qui est sûr, c'est que le soutien de la population civile, dont on parlait avant, peut expliquer des choses. De plus en plus, la population civile, y compris les gens qui étaient des révolutionnaires, s'est fatiguée de l'occupation souvent violente des forces de soutien rapide, notamment à Khartoum, et parfois a pris les armes pour soutenir l'armée. Donc cette motivation, cette mobilisation peut expliquer que l'armée ait repris l'avantage, mais après, je ne peux pas prédire le futur.
Merci en tout cas de nous avoir éclairé ce matin sur RFI. Jérôme Tubiana, conseiller aux opérations de l'ONG Médecins Sans Frontières, spécialiste du Soudan et de la guerre au Soudan. Il en sera question tout au long de la journée sur RFI, notamment dans Afrique Midi à 12h30, temps universel avec Nicolas Sûr. Restez avec nous dans 10 minutes, vos réactions sur la Guinée.